Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Alors que la population mondiale reste concernée par la pandémie de Covid-19 à des degrés divers en fonction des continents, les chercheurs, eux, sont toujours engagés dans une course contre la montre pour trouver le vaccin efficace et sûr pour prévenir ce nouveau coronavirus qui a déjà causé plus de 400 000 décès. En l'absence de traitement éprouvé contre cette maladie émergente, très vite, c'est à une pression très intense qu'ont été soumises les équipes de chercheurs dans les universités, les instituts ou les grands groupes pharmaceutiques de la planète. L'occasion donc pour nous aujourd'hui dans Priorité Santé de rappeler comment sont fabriqués ces instruments irremplaçables pour la prévention des maladies infectieuses. Des vaccins qui ont sauvé la vie de 20 millions d'enfants au cours des 20 dernières années, décrire le long et complexe processus de l'identification de la substance active à la formulation, du contrôle de qualité, de sécurité jusqu'à la fabrication à grande échelle. Un vaccin est vite un espoir mondial, mais aussi un vaccin accessible à tous, comme l'ont plaidé il y a quelques jours les Nations Unies, en soulignant, après le spectacle navrant de la surenchère financière autour de la découverte tant espérée, que le vaccin ne devait pas devenir un bien marchand, mais demeurer un bien public mondial. 20 millions d'enfants sauvés de la rougeole, de la fièvre jaune, de la pneumonie, de la méningite. Les vaccins recherche, test, fabrication, efficacité et sécurité. Les vaccins irremplaçables, instruments de santé publique. Au Sénégal, on vous retrouve. Professeur Tandara Diaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'immunologie à l'université Cheikh Diop, spécialiste en vaccinologie, membre de la commission de vérification de la rougeole et de la rubéole pour l'OMS en Afrique. En ligne avec nous, professeur Frédéric Tanji, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du laboratoire d'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur, également auteur du livre « Les vaccins pour les nuls » aux éditions First. La recherche encore avec le projet développé par Benoît Gamin, directeur de recherche au CNRS, responsable de l'équipe INSERM Université de Paris, pathogénèse du paludisme sévère. On en parlera tout à l'heure et déroulement aussi d'une campagne de vaccination. Comment ça se passe sur le terrain ? On joindra Goma Bérangère-Guet, coordinatrice du pôle urgence de Médecins sans frontières au Nord Kivu en RDC.
Priorité santé sur RFI.
Course au vaccin, on a beaucoup entendu cette expression ces dernières semaines au sujet de l'effervescence dans les labos de recherche du monde entier pour essayer de développer, bien sûr, ce vaccin tant espéré contre le Covid-19. Pour commencer justement par ce qui vous occupe aujourd'hui, professeur Tanji, à quelle étape se situent les équipes de l'Institut Pasteur au sujet de ce fameux vaccin contre le coronavirus ?
Donc nous avons produit le candidat vaccin, on appelle ça un candidat tant qu'il n'a pas encore démontré son efficacité en clinique. Ce prototype, on va dire, et il a été testé chez des petits animaux, chez les souris, dans de nombreuses expériences qui ont démontré donc sa capacité, son efficacité à induire des réponses immunitaires actives contre le Covid, contre le SARS-2. Et ce candidat, parmi 10-12 qu'on avait fabriqués, produit, a été ensuite transféré dans une compagnie pour la fabrication industrielle. Et actuellement, on est en train de fabriquer ce qu'on appelle un lot GMP, c'est-à-dire avec les bonnes pratiques de fabrication industrielle, qui va être qualifié pour entrer en essai clinique au mois de juillet.
Alors, dès le début de l'épidémie, il faut dire que avec le Covid-19, tout le monde en parlait, y compris les non-spécialistes. On a bien compris cette attente, très forte pression. L'opinion espérait réclamer un vaccin très vite, voire tout de suite. Et ça a montré, d'une certaine façon, professeur Frédéric Tanji, que beaucoup d'entre nous ignorent le processus de fabrication d'un vaccin parce que ça prend du temps. Un vaccin tout de suite, eh bien, c'est carrément impossible. Vous pouvez, justement, nous rappeler ces grandes étapes ?
Oui, donc les grandes étapes de fabrication, il faut dire que couramment, habituellement, la génération d'un nouveau vaccin peut prendre entre 8 et 15 ans. C'est la durée de temps habituelle. Bien entendu, hors vaccin grippal, qui lui est refait tous les ans ou tous les deux ans, mais il s'agit du même produit qui est refait de la même manière. Donc c'est pas la même chose. Redémarrer la recherche d'un nouveau vaccin à partir de rien, sur une nouvelle maladie, ça prend ce temps-là et ça peut prendre bien plus. Hein. Je vous rappelle que pour ce qui est du sida, par exemple, ça fait 30 ans, plus de 30 ans,
qu'on
l'a toujours pas trouvé. Donc les étapes, c'est la première chose, c'est la recherche académique et médicale, c'est-à-dire on comprend la maladie, on comprend ce qui se passe, comment les gens la transmettent, la maladie, quelles sont les personnes qui sont malades, quelles sont les personnes qui résistent, parce qu'on apprend beaucoup sur le système immunitaire des personnes asymptomatiques qui résistent à la maladie. Et la deuxième étape de la recherche, c'est concevoir un produit. Et ça, c'est la science un peu pasteurienne. Concevoir un produit qui est facile à fabriquer. Un vaccin, c'est un produit biologique, on va y revenir, qui est facile à fabriquer et qui peut se fabriquer à grande échelle. Effectivement, vous avez parlé de l'accessibilité pour tous, donc qui peut se fabriquer à faible coût. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis au point un procédé industriel de fabrication, parce que voilà, un vaccin, c'est comme une savonnette ou des pâtes, c'est un produit qu'on doit pouvoir trouver partout. Donc c'est vraiment de la fabrication industrielle, on parle de centaines de millions de doses à produire. Donc une fois qu'on a mis au point la fabrication industrielle, en parallèle, on fait des essais cliniques, c'est-à-dire qu'on démontre l'efficacité du produit chez l'homme. Bien évidemment, on introduit en essai clinique uniquement un produit qui a déjà montré sa capacité dans un modèle animal relevant, c'est-à-dire qui fait du sens, parce que c'est un peu une règle éthique, on ne doit pas tester chez l'homme un produit si on n'a pas des arguments forts pour montrer que ce produit va être efficace. Puis on doit aussi tester sa toxicité ou son absence de toxicité aussi dans un modèle animal, c'est aussi une règle éthique. Et ensuite, donc, quand on a tout ça en main, on attaque les essais cliniques, donc on rentre chez l'homme, donc sur des volontaires, on fait ce qu'on appelle une phase 1, une phase 2 et une phase 3. La phase 1, ça consiste à tester l'innocuité du produit, donc c'est sur un petit nombre de personnes parce qu'on ne veut pas prendre trop de risques, et on teste différentes doses du produit, et on voit jusqu'à quelle dose il est inoffensif, mais inoffensif dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il donne pas la migraine, pas la fièvre, il fait pas mal, il donne pas une rougeur au point d'injection, il donne pas la diarrhée, bon, etc.
Pas d'effet secondaire.
Pas d'effet secondaire, ni grave, ni non grave. Et si ça est validé, on passe à la phase 2. On élargit le nombre de volontaires, en général 400, 300, 400, 500. Et là, on teste à une plus grande échelle à nouveau la sûreté, l'innocuité, parce que plus on augmente le nombre de volontaires, plus statistiquement on va avoir d'informations. Des effets secondaires qu'on n'aurait pas vus sur 100 volontaires, on peut les voir sur 500. Et en même temps, on mesure les réponses immunitaires, donc on prélève du sang, on fait aussi ça dans la phase 1, aux volontaires, et on regarde quels anticorps ils font, est-ce que ces anticorps sont actifs, est-ce qu'ils ont des réponses cellulaires, est-ce qu'ils ont des réponses cytokiniques, etc. On fait une analyse complète de l'immunologie en réponse au vaccin. Et si tout ça est bon, qu'on a le feu vert, bien entendu, généralement, on fait plusieurs phases 2, selon l'âge de la population cible. On ne fait pas la même phase 2 chez des enfants ou des adolescents ou chez des personnes âgées, naturellement. On fait plusieurs phases 2 selon le pays. Si on veut, si le vaccin doit être enregistré en Italie, en Espagne ou au Brésil, ben on fait des phases 2 en Italie, en Espagne, au Brésil, etc. Et au bout de tout ça, on s'attaque à une phase 3. Et là, une phase 3, c'est sur un très grand nombre de volontaires parce qu'il faut être en mesure de montrer que le produit est efficace à protéger de la maladie. C'est-à-dire là, pour le Covid, ben c'est, on va mettre 10 000 personnes dans un bras qui va recevoir du placebo et 10 000 personnes qui vont recevoir le vaccin. Et on va 3 mois ou 6 mois après compter dans les deux groupes qui a eu le Covid, qui n'a pas eu le Covid.
Alors aujourd'hui, on parle bien sûr vaccin Covid, mais pas seulement, bien évidemment. Professeur Tandara Dieye, on vous retrouve à Dakar. À titre personnel, vous avez été associé à quels essais, à quelles recherches au cours des 15 dernières années ?
Merci beaucoup pour votre bonne question. Vraiment, je salue à tous vos auditeurs, hein, parce que quand même, votre émission est très, 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 très bien écoutée en Afrique. Donc, j'allais dire que moi-même, personnellement, avec toute mon équipe, nous avons été associés à plusieurs types de vaccins, parmi lesquels donc les vaccins contre la tuberculose. Vous savez bien que l'ancien vaccin, enfin le vaccin qui est encore en cours, c'est le BCG, mais il n'y a pas encore de vaccin purement efficace contre la tuberculose, en tout cas, qui nous donne beaucoup de satisfaction. Donc, j'ai eu à participer à 3 essais vaccinaux contre la tuberculose avec l'équipe d'Oxford et qui nous a valu donc de passer par la première phase, la phase 1 qu'on a fait 2 fois, la phase 2 également qu'on a fait également 2 fois. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, ce que le professeur Tanguy a dit tout de suite est très, très important, donc vraiment de décliner toutes les phases qui sont extrêmement importantes dans le processus. Mais en dehors de cela également, il y a également le vaccin contre la malaria. Vous savez bien que la malaria, comme la tuberculose, est extrêmement prévalente en Afrique. Mm-hmm. Et ça nous pose un problème terrible, hein, donc le paludisme. Et là également, nous avons également travaillé dans un essai également vaccinal également contre l'équipe de Genève d'Oxford, qui a mis au point un vaccin COVID dont nous parlerons plus tard. Mais aussi, ce qui est peut-être le plus important vers la fin ces dernières années, c'est les vaccins contre Ebola. Parce qu'Ebola est épidémique en Afrique et nous pose un énorme problème, surtout au Congo. Et là, j'ai eu à participer à 3-4 essais vaccinaux Ebola ici en Afrique. Et dont l'un des essais nous a valu vraiment un grand succès et qui a fait que même ce vaccin-là est aujourd'hui homologué et utilisé au niveau au Congo, également dans le Nord Kivu, et qui a vraiment valu vraiment de très bonnes satisfactions.
Oui, la RDC face à la 11e épidémie d'Ebola. Et en ce moment, justement, hier, les déclarations des autorités sanitaires congolaises qui se félicitaient du succès de la campagne de vaccination dans la zone de Mbandaka, donc où il y a eu cette nouvelle émergence d'Ebola. Messieurs deux professeurs, je vous invite à rester avec nous. Justement, on va parler de tests de vaccins puisqu'on part pour le Brésil. Les recherches et le concret au Brésil avec des volontaires vaccinés. Une étude initialement lancée au Royaume-Uni. Vous en parliez auprès de cette université, cette fameuse université d'Oxford. Et donc ce mois-ci, des tests qui vont porter sur pas moins de 2000 volontaires brésiliens, 3e pays le plus affecté par le Covid-19. Ces volontaires ont été essentiellement recrutés parmi les personnels les plus exposés. Et à Rio, reportage signé Sarah Cosolino.
Les volontaires devront avoir entre 18 et 55 ans, ne pas avoir été contaminés par le coronavirus et surtout faire partie de ceux qui sont les plus exposés au virus. Les personnels de santé, mais aussi les équipes de nettoyage des hôpitaux ou encore les chauffeurs des ambulances. Au Royaume-Uni, le vaccin a été testé sur près de 12 000 personnes depuis la fin avril. Pour Sue Costa, chercheuse de l'Université fédérale de Sao Paulo, le vaccin d'Oxford est l'un des plus efficaces.
Je pense que la grande différence de ce vaccin candidat d'Oxford, c'est qu'il fonctionne en une seule dose, en prise unique, alors que les autres, aussi en développement, au niveau des phases 2 ou 3, comportent en général 2 doses.
Parmi les 2000 volontaires, une partie recevra cette dose unique et l'autre un placebo. Le Brésil a été choisi parce qu'il comporte les conditions idéales pour ce type d'expérience. Le virus est bien établi et circule beaucoup parmi la population et la courbe d'infection est en pleine croissance. Fernanda Tova est présidente de l'Institut d'Or de recherche et enseignement qui coordonne les tests à Rio de Janeiro.
Au-delà de la motivation scientifique, on parle ici de la lutte mondiale contre cette pathologie. On parle d'apporter de l'espoir pour le monde et que le Brésil prenne part dans ce combat contre le virus et soit moteur d'un progrès scientifique avec un vaccin au Brésil.
Les volontaires seront suivis pendant 1 an durant lequel ils devraient passer au moins 5 examens médicaux. Les résultats finaux sont attendus pour août 2021, mais selon Lili Yinvex, qui coordonne les tests à Sao Paulo, une sortie anticipée du vaccin serait envisageable.
Nous recueillons et cumulons en permanence des données. Et si l'on voit que les résultats sont très positifs, il est possible que le vaccin obtienne une licence pour être utilisé avant le terme programmé de l'étude. Donc, on pourrait avoir ce qu'on appelle une licence pour usage en situation d'urgence dans le cadre de la pandémie.
Alors que plus de 110 vaccins sont en phase de test dans le monde, celui de l'Université d'Oxford est considéré parmi les plus prometteurs selon l'Organisation mondiale de la santé. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et avec des résultats finaux de ce vaccin prévu pour août 2021, professeur Frédéric Tanguy, face à une telle compétition, avec ce que cela implique aussi en termes financiers, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains brûlent des étapes, et c'est important bien sûr, en matière, tout à l'heure vous parliez de l'innocuité, pas d'effet secondaire, pas d'effet indésirable. Est-ce que parfois on n'est pas un petit peu tenté d'aller trop vite?
Bien sûr, et c'est tout le problème qu'on rencontre actuellement avec ce vaccin contre le Covid. Donc, brûler des étapes, ça veut dire faire un vaccin en 6 mois ou en 9 mois ou en un an, alors que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait en moyenne 12-15 ans. Donc bien évidemment, on brûle des étapes. Plusieurs compagnies ont brûlé les étapes du modèle animal, ou ont fait modèle animal, mais sur 3 animaux seulement, sans répéter suffisamment les expériences. Évidemment, c'est un côté positif, parce que tout c'est d'avoir un vaccin assez rapidement. Le risque, c'est que, moi qui me fait très peur actuellement, c'est que si on arrive au bout du compte avec un vaccin qui a des effets secondaires graves, parce qu'ils ont été mal testés, alors qu'on est dans une période de défiance vaccinale, ça va être extrêmement dramatique pour la population et pour les autres vaccins qui, comme vous l'avez rappelé, sont extrêmement, sont totalement primordiaux, comme la rougeole, la fièvre jaune, etc.
On va en reparler tout à l'heure. Justement, professeur Tandara, excusez-moi, Diaye, sur ce processus, ce fameux processus de test, on l'a bien compris, quand on ne veut pas aller trop vite, quand on suit le processus habituel, quelles sont les instances qui vont approuver le lancement de ces tests, de ces recherches ?
Merci beaucoup. Mais vous savez, d'abord, si déjà le vaccin a été conçu, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Tanguy, et que c'est un candidat vaccin, alors, on a déjà fait l'essai au niveau animal, on passe au niveau humain. Mais sur ce plan-là, on commence par la phase 1. Et surtout, cette phase-là, souvent, elle est faite, cette phase-là, elle est faite dans le pays où le vaccin a été produit, généralement, a été fabriqué, le candidat vaccin. Mais surtout, si pratiquement on doit impliquer d'autres sites, parce que le vaccin ne peut être fait que s'il y a plusieurs sites, ne peut être homologué que s'il y a plusieurs sites. Par exemple, s'il y a d'autres sites, évidemment, vous devez, dans ce pays-là, soumettre le vaccin donc à l'approbation du comité éthique, qui est indépendant. Et ça, c'est fondamental, c'est primordial, parce que le comité éthique est un comité qui est habilité à vérifier et à vous poser plusieurs questions sur ce vaccin-là pour essayer pratiquement de donner un avis éclairé sur un vaccin qui peut être utilisé au niveau humain. Mais deuxièmement aussi, c'est que si vous commencez déjà votre essai vaccinal, évidemment, il y a un nombre de conditions qu'il faut. Il faut que votre laboratoire soit vraiment bien équipé. Il faut que votre équipe puisse avoir toutes les garanties nécessaires, toute l'expertise nécessaire. C'est ça qu'on appelle les bonnes pratiques cliniques. Il faut vraiment que les gens soient bien formés à ce niveau-là. Mais surtout, l'élément le plus important, c'est qu'on doit vérifier régulièrement que votre vaccin, votre essai clinique se passe très, très bien. C'est ça qu'on appelle le DSMB. Hein, DSMB, c'est Data Monitoring Safety Board. Je crois que c'est en anglais. Donc, une commission qui s'occupe de vérifier la sécurité des données qu'on a générées. Et ça, c'est vraiment un organe indépendant. Et si vous ne l'avez pas au départ, vous ne pouvez pas être autorisé à pouvoir faire votre vaccin. Et même en dernier lieu, évidemment, il faut noter que les personnes qui sont les participants doivent être mis normalement sous assurance. Il doit y avoir des garanties. Donc c'est pourquoi le concepteur met tout cela en place avant vraiment que le vaccin ne puisse être testé dans un pays. Donc il faut voir vraiment que tout le processus est contrôlé.
Expérimentation très, très encadrée. Alors, on souligne bien sûr cette urgence pour le Covid-19, mais d'autres maladies infectieuses ou maladies parasitaires, on va dire, bien plus anciennes, et on peut dire aussi plus redoutable en termes de mortalité, de létalité, n'ont toujours pas de vaccin. On va justement s'arrêter sur l'une de ces redoutables maladies que connaissent très bien nos auditeurs. Pas de vaccin jusqu'à présent, c'est le paludisme. Benoît Gamin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, responsable de l'équipe INSERM Université de Paris, pathogénèse du paludisme sévère. Alors c'est bien compliqué, mais pour expliquer ce que vous faites, vous êtes en train de travailler, d'entamer donc, de poursuivre des recherches, ça dure depuis déjà longtemps, pour essayer de trouver un vaccin pour les futures mamans, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Alors comme vous l'avez dit, hein, le paludisme en Afrique représente toujours un problème de santé publique majeur, hein, puisqu'il y a plus de 200 millions de cas cliniques annuellement et plus de 400 000 décès, principalement des enfants âgés de moins de 5 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la population en zone d'endémie a la capacité de créer une immunité clinique qui va les protéger contre les formes sévères du paludisme. Donc c'est pour ça que ce sont principalement les enfants de moins de 5 ans qui décèdent ou qui ont les formes les plus sévères. Cependant, les femmes, au cours de leur première grossesse, vont être de nouveau susceptibles aux formes sévères du paludisme, vont avoir une anémie sévère, et ces formes sévères vont provoquer la mort à peu près de 10 000 femmes dues au paludisme gestationnel, mais aussi ça va représenter 200 000 décès infantiles par an, principalement liés à l'insuffisance pondérale, donc à un faible poids de naissance dû à l'infection pendant la grossesse.
Alors, il s'agit de protéger ces enfants à naître.
Voilà, donc nous ce qu'on veut protéger, ce sont bien évidemment les futures femmes enceintes pendant leur première grossesse, parce qu'il faut savoir que les femmes au fur et à mesure de leur grossesse vont acquérir une immunité contre le paludisme gestationnel, donc c'est principalement pendant leurs deux premières grossesses qu'elles vont être susceptibles à ce paludisme gestationnel, et aussi les enfants. En fait, si on protège les femmes, si on vaccine ces femmes avant leur première grossesse, on va permettre à ces femmes d'avoir une grossesse qui va se développer dans des conditions normales, des échanges materno-fétaux qui vont se faire normalement, donc une bonne alimentation du fœtus, et donc des enfants avec un point de naissance normal.
Alors on a bien compris qui était ciblé. Maintenant, du côté de vos recherches, où en êtes-vous? Est-ce qu'il y a déjà des tests qui ont été conduits?
Alors, tout à fait. Donc, faut savoir qu'on travaille sur ce vaccin depuis une vingtaine d'années. Comme l'a dit le professeur Tanguy, le développement vaccinal dans le paludisme, ça prend beaucoup plus de temps. Faut savoir que le seul vaccin actuellement qui a été autorisé par l'Agence européenne du médicament, l'EMA, a démarré en 1987 et il n'est toujours pas commercialisé. C'est le Mosquirix, hein, développé par la firme GSK. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2010, on a obtenu un financement conséquent du ministère allemand de la Recherche et d'European Vaccine Initiative, et en partenariat avec l'INSERM, hein, qui est le promoteur de l'essai clinique, on a pu démarrer un essai clinique en 2015 sur notre candidat vaccinal qui s'appelle PrimVac. Ce vaccin a été administré chez 68 femmes, 18 femmes en France, à Paris, au centre d'investigation clinique Cochin Pasteur, puis au Burkina Faso, au centre national de recherche et de formation sur le paludisme à Ouagadougou. Les résultats ont montré que ce vaccin était sûr, sans effet indésirable grave, avec quelques petites douleurs aussi d'injection, mais sans vraiment aucun effet néfaste. Donc comme l'a dit le professeur Tanguy, la phase 1, c'est vraiment pour s'assurer que ce vaccin est sûr. Mais on a pu aussi mesurer si ce vaccin était capable de générer des anticorps qui avaient une potentielle protection contre le paludisme gestationnel. Et effectivement, les anticorps qui sont produits chez les femmes vaccinées semblent être capables donc de reconnaître l'antigène parasitaire qui est produit par le parasite et d'inhiber la capacité des parasites à se fixer dans le placenta.
Je saute beaucoup d'étapes, mais si je vous demande tout simplement, pour par exemple des jeunes filles qui nous écoutent et qui ont envie bien sûr d'être protégées pour leur future grossesse, dans combien de temps ce vaccin pourrait-il être disponible pour le grand public, pour ces femmes ?
Alors maintenant qu'on a passé l'étape, je dirais cruciale, hein, de la fabrication du vaccin, les méthodes de fabrication, la phase 1 qui a montré des résultats de tolérabilité excellents et des bons résultats en phase 1 sur l'immunogénicité, sur la production d'anticorps, on peut imaginer que si tout va bien, on pourrait avoir un vaccin commercialisé dans 10 ans. On n'est pas comme l'a dit le professeur Tanguy, il faut vraiment laisser le temps au temps, il faut vérifier en phase 2 qu'on n'a bien évidemment pas d'effet indésirable qu'on n'aurait pas vu pendant la phase 1, il faut mesurer la réponse immune, les anticorps qui sont générés, vérifier que c'est bien la réponse qui est désirée, et puis une phase 3, et puis toutes les étapes. Et tout ça, c'est bien évidemment si on est capable de lever les fonds nécessaires à la fabrication et à la réalisation de tous les essais cliniques qui coûtent des millions d'euros.
Donc il y a toujours cette question du financement qui est absolument essentielle pour mener ce type de projet au long cours jusqu'à leur terme. Merci infiniment pour toutes ces explications, Benoît Gamin, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Et ce vaccin contre le paludisme, on peut vraiment le dire, hein, professeur Tandara Dieye, ça correspond vraiment à une attente en matière de santé publique en Afrique subsaharienne.
Oui, énormément, puisque depuis qu'on en parle, parce que le paludisme tue énormément en Afrique particulièrement. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous vu, hein, avec la pandémie Covid, on a plus de 400 000 morts. On dépasse ça largement en un an pour le palud. Et donc, mm-hmm. vous voyez, hein, que c'est quand même une urgence énorme vraiment en Afrique. Donc, il est très salutaire d'entendre parler donc le docteur Diamé, donc qui parle un petit peu de l'avancée un peu de ces tests, de ces essais cliniques pour le paludisme gestationnel. Et je pense que si vraiment ces essais-là sont concluants, ce serait vraiment une aubaine pour l'Afrique. Et comme on le sait tout à fait, ça coûte extrêmement cher. Il faut mm-hmm. un investissement énorme par rapport à tout cela. Ces essais demandent beaucoup d'argent, demandent également une certaine adhésion de la population, demandent à ce que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse vraiment y aller ensemble. Et ça prend du temps.
Et cette adhésion, elle est à plusieurs titres. Hein. Pour revenir à vous, professeur Frédéric Tanguy, on va dire que quand on entend qu'on prend son temps, comme on l'a entendu du côté de ce groupe de chercheurs, eh bien, il y a vraiment une dimension rassurante. On y va étape par étape, bien sûr. Et pourtant, il y a l'urgence de sauver ces enfants, il y a de l'urgence de sauver ces femmes, mais on suit les règles. Et ça, c'est absolument essentiel pour contrer tous les discours complotistes qu'on entend, par exemple, et qu'on peut lire sur les réseaux sociaux en France.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il est impératif de respecter les règles. D'abord, les vaccins existants avec lesquels on vaccine nos enfants régulièrement sont des produits qui ont mis des décennies, voire des siècles, avant d'être disponibles. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on doit continuer d'aller lentement, bien évidemment, c'est excessivement dangereux. Pour aller très vite, voilà, je vais pas vous résumer toutes les différentes technologies de génération des vaccins, mais pour aller très vite, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont uniquement des technologies nouvelles qui sont utilisées. Mmh. Un vaccin, c'est un produit biologique. Hein. Comment notre système immunitaire fonctionne? Notre système immunitaire, il fonctionne parce que depuis la nuit des temps, depuis même l'époque où on était invertébrés, il y a 300-400 millions d'années, on vivait au milieu de pathogènes, de virus, de microbes, de bactéries, de parasites, qui sont aujourd'hui encore les mêmes qui s'attaquent à ces animaux-là. Donc on a développé depuis cette époque-là un ensemble de systèmes qui est capable de reconnaître ces pathogènes, reconnaître leur forme, reconnaître leur molécules, leur structure moléculaire à la fois de protéines et d'acides nucléiques, et reconnaître leur danger et leur pathogénicité. Et c'est à partir de là que notre système immunitaire est capable de monter une réponse totalement intégrée, systémique, qui va répondre un peu avec toutes les armes dont elle dispose, dont il dispose dans tous les sens. Aujourd'hui, pour aller très vite, et donc ça implique que le produit biologique qui est un vaccin, c'est un microbe dégradé, inactivé, atténué, modifié, qui va faire croire à l'organisme qu'on est atteint de la maladie. Il faut qu'il soit le plus proche possible du microbe original. S'il est très très loin, notre organisme ne reconnaît pas bien les choses ou n'active qu'une seule partie du système immunitaire. Mmh. C'est un petit peu le risque qu'on prend aujourd'hui avec les technologies nouvelles, parce que ce sont des technologies qui sont destinées à produire des vaccins rapidement, mmh. à faire que le vaccin pour l'industrie pharmaceutique devienne un produit à haute valeur ajoutée et non pas un produit, parce que le vaccin, ça rapporte rien. Un vaccin, on le donne au bébé une fois dans la vie et il est protégé de la rougeole ou de la fièvre jaune ou de la tuberculose pour toute sa vie. Et on espère un jour du paludisme. Donc ça coûte rien, ça rapporte pas d'argent. Donc c'est pas très intéressant. Donc l'industrie s'intéresse au vaccin que si on peut le redonner tous les ans, comme le vaccin grippal. Et là, ça devient effectivement un produit de pharmaceutique qui génère du chiffre d'affaires. C'est un petit peu le risque c'est même beaucoup le risque qu'on a actuellement avec les nouveaux développements de ce vaccin Covid, dont tous les industriels espèrent que ça sera un vaccin annuel parce que l'épidémie risque de revenir tous les ans.
Donc, cet intérêt financier, excusez-moi, professeur Tanguy, on va y revenir tout à l'heure en conclusion. Moi, je voulais revenir sur la fameuse question de confiance en citant bien évidemment cette épidémie qui a marqué l'opinion l'an passé, même si une épidémie chasse l'autre. c'est la rougeole. On a bien compris à ce moment-là vers quel risque réel, vers quelle menace de santé publique pouvait nous conduire la résistance de certains face au vaccin.
Oui, moi ça c'est certain, c'est évident. À chaque fois qu'il y a une baisse de couverture vaccinale, et la rougeole en est un exemple très très éclairant, parce que la rougeole c'est probablement la maladie infectieuse la plus contagieuse qui ait jamais frappé l'humanité. Le taux de R0 de reproduction initiale de ce virus est de alentour de 20. Et je vous rappelle que le taux de reproduction initiale du SARS-CoV-2 au départ était aux alentours de 2,5. C'est-à-dire qu'on est près de 10 fois plus contagieux avec la rougeole. Donc effectivement, dès qu'on baisse la garde, dans quelques pays que ce soit, il y a des problèmes. Et en particulier, on parlait tout à l'heure de l'Ebola. Vous parliez de l'Ebola, effectivement, quand il y a une crise Ebola dans un pays africain, le résultat dans l'année qui suit, c'est un nombre de cas de rougeole énorme, parce que on a baissé la garde sur la vaccination rougeole au cours de la crise Ebola qui a déstabilisé le système de santé.
Et vous m'aidez pour mon émission, professeur Tanguy, parce que justement, on va parler de la rougeole en République démocratique du Congo, et pour cela, on prend tout de suite la direction de Goma.
RFI à Goma, 98 FM.
Pour vous retrouver, Bérangère Guet, bien sûr, tout à l'heure, on va retrouver nos invités, notamment le professeur Tanguy. Bérangère, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes coordinatrice du pôle urgence de Médecins sans frontières au Nord Kivu. Alors justement, on parlait de la rougeole, maladie hautement contagieuse s'il en est, avec le professeur Tanguy. Vous êtes en pleine campagne de vaccination contre cette maladie notamment, c'est bien cela?
Oui, tout à fait.
Alors comment ça se passe? Comment ça se passe dans les villages, dans les centres de santé? Comment est-ce que vous procédez à cette campagne vaccinale?
Alors, il faut savoir que la République démocratique du Congo est un pays qui est malheureusement ravagé par la guerre depuis de nombreuses années. Et donc, en cela, ça génère des déplacements massifs de population dans un pays qui est déjà fragilisé avec un accès à la vaccination qui est extrêmement limité. Et donc, en cela, on observe malheureusement depuis 2018, on fait face à la pire épidémie de rougeole qu'il y a eu depuis plus de 10 ans. Et pour lesquels on est intervenu massivement, puisqu'on a vacciné sur une période d'un an et demi plus de 900 000 enfants, on a pris en charge plus de 50 000 enfants, et malheureusement, parmi les cas de décès qu'on a notifiés, plus de 6 500 enfants sont décédés. Donc c'est très... il faut savoir que les campagnes de vaccination massives demandent des moyens logistiques absolument énormes dans un pays où l'accès aux routes est extrêmement compliqué, l'accès aux villages est compliqué, l'accès aux zones de conflit sont très compliqués. Donc pour ce faire, déjà, il faut donner l'information aux populations, puisqu'on parle souvent de foyers de résistance. Or, il faut savoir que la majorité des gens, ils souhaitent avoir accès aux vaccins.
Et justement, je voulais vous poser cette question. Si les gens ne sont pas vaccinés, c'est pas parce qu'ils ne le souhaitent pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de l'être, et principalement que les mamans amènent les enfants au centre de santé.
Exactement. Il faut savoir que la majorité des gens souhaitent avoir accès à la vaccination. Il se trouve dans certains contextes qu'il peut y avoir quelques foyers de résistance, mais qui ne sont absolument pas représentatifs. Et en général, ces foyers de résistance ou la défiance n'est pas forcément liée au vaccin lui-même, mais souvent aux organismes et à la confiance que la population va attribuer à l'organisme qui va vacciner, que ce soit le gouvernement, que ce soit des organismes internationaux. Et donc, en cela, c'est très très important de préparer des campagnes de sensibilisation massive. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, quand MSF nous intervenons et régulièrement sur des campagnes de masse, la priorité pour nous, et c'est la réussite d'une bonne campagne, c'est la sensibilisation. Et pour ça, il faut toucher toutes les couches structurelles qui existent dans la population, à savoir les groupes de femmes, les groupes de pression, les leaders communautaires, les associations de motards. On fait passer des messages radio. Et ça, c'est très très important. Et on ne peut pas entamer une campagne de vaccination tant qu'on n'a pas touché la majorité la grande majorité de la population qui doit se faire vacciner.
Et tout à l'heure, vous avez souligné le facteur d'insécurité dans le recul de la couverture vaccinale. Le professeur Tanguy, et c'est indéniable, citait aussi l'impact qu'a pu avoir la dernière épidémie dans votre région, principalement les Kivus d'Ebola. Est-ce que vous avez vu justement que c'était plus compliqué, on va dire, de vacciner pour les grandes maladies infantiles une fois qu'il y avait eu justement ce risque d'Ebola ?
Oui, effectivement, puisque déjà dans l'épidémie d'Ebola, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que donc c'est une maladie qui malheureusement reste extrêmement mortelle, même si il y a eu depuis de nombreuses années une énorme avancée sur
la prise en charge des patients,
sur les traitements, sur la prise en charge des patients, exactement. Donc ça, c'est très important de le souligner. Mais néanmoins, ça va fragiliser encore plus le système de santé, puisque les gens soit vont craindre de venir dans les centres de santé, puisqu'il y a un risque malheureusement Il faut savoir qu'à Beni, typiquement en 2018, quand l'épidémie d'Ebola a démarré, les structures de santé existantes étaient malheureusement des risques d'incubateurs de la maladie, parce que toutes les structures de santé n'ont pas bénéficié immédiatement de protection, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prévention et le contrôle des infections, avec la mise en place d'équipes formées sur place dans ces structures de santé, sensibilisées pour pouvoir rapidement isoler des cas potentiels d'Ebola et donc ainsi protéger les gens qui viendraient se faire soigner dans les structures de santé. Et ça, c'est malheureusement un constat qui est difficile, puisque et on peut faire le même constat sur la pandémie de Covid actuelle, c'est-à-dire que la priorité, c'est vraiment de préserver le système de santé, si fragile soit-elle, pour que les gens puissent continuer à avoir accès aux soins.
Et d'autant plus qu'il y a le système de santé, mais il y a aussi les infrastructures routières, le système de réfrigération des vaccins, avec, dans certains cas, pas forcément d'ailleurs, dans les zones de conflit comme le Kivu, mais une véritable problématique de la rupture de stock.
Exactement, et ça c'est très fréquent, c'est très compliqué de pouvoir approvisionner les centres de santé de manière régulière. Et donc ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle les programmes de routine, de vaccination de routine, qui laisserait penser qu'une maman, quand elle vient avec son enfant, puisse avoir un accès n'importe quel jour de la semaine, non, ça ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on observe dans beaucoup de structures de santé où la vaccination, elle est disponible une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Et il y a aussi un problème d'accès, c'est-à-dire que les critères d'éligibilité ne sont pas assez larges. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la République démocratique du Congo, c'est surtout les enfants de moins d'un an qui vont être concernés par les vaccins essentiels. Et ça, il faut aussi pousser et faire du plaidoyer dans ce sens pour élargir ces critères. Puisqu'une maman qui viendrait avec un enfant de 15 mois, à titre d'exemple, dans une structure de santé, elle se verrait dire que son enfant, il est déjà hors des critères, mais son enfant, il est tout aussi à risque. Et ça, c'est très important. Et la base, c'est les campagnes de vaccination sont une réponse à une situation d'urgence, mais on n'arrêtera pas d'organiser et on ne pourra pas arrêter d'organiser des campagnes de vaccination tant que le système de vaccination de routine, qui devrait faire en sorte que les enfants aient accès rapidement et de manière régulière à la vaccination, permettant ainsi de créer une immunité collective avec des taux de couverture importants. Tant que ça ne sera pas possible, eh bien malheureusement, on verra des épidémies récurrentes tous les 2 ou 3 ans, où on intervient d'ailleurs MSF régulièrement dans les mêmes endroits depuis plusieurs années.
Oui, une aberration finalement de ne pas tenir compte de ce contexte d'urgence alors qu'on parle de santé publique et de santé pédiatrique. On vous remercie beaucoup, Bérangère Gouet, pour cette intervention. Je rappelle que vous étiez en ligne de Goma où vous êtes coordinatrice du pool urgence de MSF au Nord Kivu. Et on l'a vu justement avec l'épidémie de Covid-19, d'ailleurs y compris en France, un certain retard sur le calendrier vaccinal. Professeur Tandara Diaye, je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi pour dire aux parents, surtout, il faut aller dans les centres de santé faire vacciner les tout-petits parce que c'est absolument essentiel pour les protéger.
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque vous l'avez dit au début de votre émission, il y a près de 2 millions de personnes, d'enfants qui sont sauvés chaque année à cause de la vaccination. Et je pense qu'il y a au minimum 14 antigènes Donc, je veux dire, différents types de vaccins donc, qui sont utilisés chaque année, pratiquement, par nos programmes élargis de vaccination. Et je pense que ça, c'est très c'est fondamental. Il ne faut pas qu'on pense seulement au COVID et qu'on n'aille pas faire vacciner nos enfants. Et je suis tout à fait d'accord avec le reportage qui s'est à Goma.
À Goma.
Et là, vraiment, c'est aussi bien important que la rougeole, aujourd'hui, continue encore à poser problème. Et ce n'est pas normal. Puisque quand même, depuis on vaccine une première dose à 9 mois, et même d'ailleurs, on va un peu plus loin, à 18 mois, on donne une seconde dose, mais tout ça, pratiquement, pour essayer de réduire cela le maximum possible, donc la contagion, et d'atteindre une immunité collective. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tous ces efforts-là qui ont été faits, si on ne s'occupe que de COVID, on pense qu'au COVID, on a souvent peur d'aller se faire d'amener ses enfants, et le risque est énorme, pratiquement, ces enfants-là vont mourir de rougeole. Alors aujourd'hui, même au niveau de l'OMS, il a été mis au point, pratiquement, il a mis en place pratiquement une commission de vérification de l'élimination de la rougeole. Je pense qu'il y a certains pays africains qui étaient vraiment proches de la rougeole, de l'élimination de la rougeole. Et moi, personnellement, en tant que membre de cette commission-là, c'est certainement, on va encore faire appel à une autre réunion dans peut-être 3 mois, 4 mois, en fonction, bien sûr, de l'évolution du COVID. Et je suis sûr qu'on aura des surprises pour certains pays qui étaient peut-être très proches de l'élimination.
Sur le recul.
C'est sûr qu'il y aura un recul en même. Donc, c'est là, pratiquement, où on doit vraiment insister, pour un peu insister sur notre population, pour leur faire comprendre que cette défiance-là vis-à-vis des vaccins, certes, c'est vrai, mais souvent, les gens ont peut-être, les réseaux sociaux ont occupé l'espace pour que les gens aient de plus en plus, pour qu'il y ait une peur vis-à-vis de ces vaccins-là. Vous devez comprendre énormément ce que ces vaccins-là nous apportent.
Avec cette fameuse dimension collective, professeur Frédéric Tanguy, c'est essentiel. Tout à l'heure, vous nous avez parlé justement de l'immunité. Et on peut dire aussi, au travers du vaccin, cette dimension solidaire, d'engagement sanitaire collectif. Est-ce que c'est aujourd'hui bien compris par la population ?
Non, pas tout à fait. En tout cas, c'est bien compris. C'est probablement mieux compris en Afrique et dans les pays où les gens attendent les vaccins et bénéficient vraiment du programme élargi de vaccination qui consiste quand même à apporter. C'est une règle déontologique. Les vaccins font partie des droits fondamentaux de l'homme. Et donc apporter, on s'est engagé à ça depuis finalement l'éradication de la variole dans les années 70, à apporter des candidats vaccins, des produits efficaces à l'ensemble de la population. C'est probablement la raison pour laquelle on est si nombreux aujourd'hui sur Terre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est un autre débat. Mais de toute façon, c'est le minimum. On ne peut pas laisser des enfants naître et ne pas les protéger quand les voisins, en passant la frontière, sont protégés. Et aujourd'hui, oui, ça repose ce problème. Moi, je reviens au Covid parce que les technologies qui sont développées ne vont pas assurer ça, c'est sûr. On peut dire, par exemple, que les technologies ARN, qui sont très en avance sur le plan technologique et qui sont très poussées par l'Amérique ou certains pays européens, eh ben, sont des produits pour lesquels il faut une chaîne du froid, mais tenez-vous bien, une chaîne du froid à moins 80 degrés. C'est-à-dire que même en France, même à Paris, tous les hôpitaux n'ont pas un congélateur à moins 80 dans leur placard.
Donc on est sur le problème d'accès, c'est pour personne, c'est pour des super patients.
Voilà, donc c'est des vaccins qui sont conçus pour les pays riches, là où on va pouvoir payer 100, 250, voire 500 dollars la dose vaccinale, le système de santé va le rembourser. Et on va toujours laisser une partie du monde de côté. Et je tiens à dire qu'à l'Institut Pasteur, on fait le contraire. Le vaccin qu'on développe contre le Covid, comme toutes nos approches vaccinales, chikungunya, la dengue, etc., est basé sur le vaccin contre la rougeole, qui est un vaccin vivant atténué, qu'on produit dans le monde entier, qui n'est pas cher, et qui est en accessibilité à tout le monde, justement par l'intermédiaire de ce programme élargi de vaccination de l'OMS et de Gavi. Et que donc si on introduit des doses vaccinales recombinantes, c'est-à-dire qu'ils vont vacciner simultanément contre la rougeole et une autre indication, on renforce le programme rougeole dans le monde, ce qui est une bonne chose.
Ça veut dire que penser le vaccin comme bien public mondial, comme l'a demandé encore récemment l'ONU et un certain nombre de dirigeants du monde, on va dire en s'opposant un petit peu à la logique financière du président américain Donald Trump, ça veut dire que c'est quelque chose qui est conçu d'emblée par les chercheurs. C'est intégré d'emblée de faire de ce vaccin un bien public.
Absolument, vous avez tout à fait raison. On démarre avec l'idée de faire un bien public ou on démarre avec l'idée de gagner de l'argent. Et les technologies
ce ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'industriels. Vous voyez, la technologie de l'Institut Pasteur, elle vient récemment de se vendre à un très gros industriel, le plus gros, qui est la compagnie Merck. Mais Merck est aussi la compagnie qui fournit le vaccin Ebola pour l'Afrique. Donc, ils ont une part de cet engagement. Et naturellement, dans le contrat qui a été cédé, il y a eu une exigence de la part de l'Institut Pasteur, soutenue par le gouvernement français, que cet accord soit signé en échange de la mise en accessibilité en Europe et dans d'autres pays du monde des doses de vaccins qui seront fabriquées. Donc la démarche, elle peut être conjointe entre un industriel et des chercheurs qui effectivement ont dès le départ l'idée de concevoir un produit qui sera un bien public.
Et dans l'actualité récente, forcément, on garde en mémoire la polémique qui avait été soulevée par les déclarations du patron du géant pharmaceutique français Sanofi, pour ne pas le nommer, qui avait choqué en annonçant qu'il distribuerait un possible vaccin en priorité aux États-Unis parce qu'ils avaient payé. On est loin du bien d'utilité publique. Il avait fallu un petit peu corriger les choses. J'imagine que cette question de l'accès, professeur Tandaradiei, c'est absolument essentiel pour vous, bien sûr, parce que vous pensez à vos concitoyens, c'est bien normal.
Exactement, parce que c'est pourquoi d'ailleurs la démarche doit être conjointe pour mettre au point ces vaccins-là. C'est pourquoi l'Afrique ne doit pas être en dehors de tout le processus. On doit être dedans. Et je pense que si pratiquement de manière concertée, tout le monde est autour d'une table, les gens discutent et mettent au point pratiquement ensemble un vaccin avec tout ce que ça demande du point de vue de l'appréciation du public, mais du point de vue du partage après. Parce que comme l'a dit tout à l'heure le professeur Tanguy, le vaccin, c'est vrai qu'il y a des vaccins qui sont conçus, qui vont coûter extrêmement cher et qui sont difficiles à garder, mais il y a d'autres vaccins qui sont conçus par l'équipe de Pasteur, par l'équipe de Oxford, qui sont beaucoup plus facilement conservables aussi, qui ne demandent pas une grande chaîne de froid.
Et ça veut dire que d'une certaine manière, professeur, le vaccin, c'est aussi de la politique?
Mais il y a tout dedans, parce que tout simplement, au départ, parce qu'il y a quand même des notions, des fondamentaux qu'on doit savoir quand même quand on parle de vaccin. Il y a des choses qui sont extrêmement importantes au tout début, c'est-à-dire l'acceptabilité, c'est-à-dire le besoin public, c'est-à-dire l'engagement donc des politiques, etc. Donc il y a tout, et le poids de la maladie. Mais donc tout cela, évidemment, il y a la politique économique, il y a tout autour de qui encadre le vaccin. Ce n'est pas seulement la conception du vaccin en tant que tel. Il faut le besoin, il faut exprimer tout cela. Donc, mais je pense que cela veut dire pratiquement que le vaccin, ce n'est pas seulement le produit tel, le produit en tant que tel qu'on donne, c'est tout ce qui tourne autour du vaccin qui nous intéresse. C'est pourquoi tout le monde doit être dedans, tout le monde doit être concerté pour que de commun accord, on puisse vraiment s'entendre, savoir exactement où est-ce qu'on va aller, et surtout que ça puisse devenir un bien public. L'Afrique ne doit pas être en dehors, même pour les essais cliniques, par exemple, mais il y a des contextes purement africains. Des contextes d'exposition, des contextes, etc., des contextes parce qu'en fait, il y a un vaccin d'Oxford, par exemple, qui se passe au Brésil, il y a d'autres essais cliniques qui se passent en Europe, il y a d'autres essais qui vont se passer en Afrique, en Amérique, etc. Et donc, il faut que ça soit multisite.
Un bien public et un bien public, surtout universel. On vous remercie infiniment. On aurait pu en parler encore pendant pas mal de temps. Merci pour votre participation, professeur Frédéric Tanguy, du laboratoire d'innovation vaccinale de l'Institut Pasteur. Et à vous, professeur Tandaradiei, membre de la commission de vérification de la rougeole et de la rubéole pour l'OMS Afrique, professeur d'immunologie. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui fabrique, réalise votre émission. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Didier Chérouse. Demain, on va parler santé au travail, accidents, maladies professionnelles, surmenage, télétravail. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.